مسيلة طبعوا كل عمالة وعدلوا كل مسيلة
Thank you. Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami?
You are nothing.
Brother, there's only one thing that I just like to mention. These two gentlemen, they are the wildness as they look. The greatest there is today.
We confess, we the best, and we speak up from the eagle's nest. Higher top, get your soul.
Il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour à vous, RFI Matin commence. 3 heures d'infos tout autour du monde et la situation au Moyen-Orient, à nouveau au cœur de notre matinée, après cette nuit marquée par des affrontements entre Israël et le Hezbollah, alors que l'Iran, selon l'agence Tasnim, a décidé de suspendre les discussions avec Washington face au renforcement de l'offensive israélienne au Liban, tout cela contredisant totalement les déclarations de Donald Trump. RFI reçoit ce matin la franco-iranienne Aïda Tavakoli. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure. D'abord, c'est votre journal, Julien Coquel-Rohem. Bonjour.
Bonjour Andréane. À la une, la confusion au Liban après les menaces israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth hier et la tentative de désescalade de Donald Trump, qui a annoncé hier soir un accord entre Israël et le Hezbollah pour une cessation des hostilités. Il semble pour l'instant bien peu suivi sur le terrain. On appelle notre envoyé spécial au Liban dans un instant. L'actualité ce matin, c'est aussi la Colombie. Deux jours après l'arrivée surprise de l'extrême droite en tête du premier tour de la présidentielle. Parole d'électeur déboussolé au micro de RFI. Dans ce journal aussi, le nouveau président béninois Romuald Ouadani au Niger et au Burkina Faso. Aujourd'hui, les relations entre le Bénin et les deux juntes ont été glaciales jusqu'ici. Et puis le général de Gaulle au cinéma. Le premier violet de deux biopics événements sort au cinéma demain en France.
Les ambassadeurs libanais et israéliens à Washington réunis aujourd'hui.
Sous l'égide de Marco Rubio et avec une possible poignée de main avec Donald Trump, les États-Unis chapotent aujourd'hui et demain une quatrième session de pourparlers entre Beyrouth et Tel Aviv. Mais pour quel résultat? Alors que le cessez-le-feu conclu le 17 avril a depuis été ignoré chaque jour et qu'hier l'armée israélienne a encore franchi un cran dans l'escalade de son offensive sur le pays, qu'une tentative de médiation des États-Unis entre Israël et le Hezbollah semble pour l'instant bien peu suivi des faits. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth, la capitale libanaise, qui a vécu hier une journée de tension et de rebondissement.
Oui, tension et inquiétude dès le matin avec ces communiqués du gouvernement israélien puis de l'armée israélienne annonçant des frappes prochaines sur des cibles dans la banlieue sud de Beyrouth et appelant la population à quitter le secteur. Des files de voitures quittent cette banlieue sud. Des habitants, comme ce que l'on entend, embarquent dans des taxis collectifs. D'autres patientent au carrefour avec leurs valises dans l'attente d'un véhicule. Des familles entières fuyant leur quartier, comme celle-ci. Trois enfants sur la banquette arrière de la voiture et un père de famille inquiet.
Ils ont lancé des avertissements. On ne peut pas faire confiance à Israël. Si tu es chez toi maintenant et qu'il y a un raid, tu ne sais pas à quel endroit. L'avertissement, ce n'est pas pour un site ou un immeuble. Il frappe des quartiers entiers. Tu ne peux pas savoir. La dernière fois, nous sommes partis en pleine nuit à 3h du matin. Je ne sais même pas comment nous avons fui ni comment nous sommes revenus. J'espère qu'il ne va rien se passer.
Et Nicolas, la fuite en masse des habitants de la banlieue sud de Beyrouth avant ce coup de théâtre en fin de journée, l'annonce par Donald Trump qu'Israël n'y déclenchera pas de raid important et que ses troupes vont faire demi-tour, puis un communiqué de l'ambassade du Liban aux États-Unis affirmant que le Hezbollah a accepté une cessation mutuelle des attaques.
Et les frappes annoncées par Israël sur la banlieue sud de la capitale libanaise, ces frappes n'ont pas eu lieu. Mais dans la nuit, des villages du sud du Liban ont été visés par l'armée israélienne et le Hezbollah a revendiqué des tirs sur une cible militaire de l'État hébreu. C'est donc l'incertitude totale sur la matérialisation des annonces d'hier soir. Et c'est dans ce contexte que doit débuter aujourd'hui à Washington une nouvelle session de discussion entre Israël et le Liban.
Nicolas Falaise à Beyrouth avec les moyens techniques de Jade Coury. Merci à tous les deux. Avant ces derniers développements, l'Arabie Saoudite a condamné hier l'agression israélienne contre le Liban et appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour y mettre fin. L'Union européenne appelle Israël à cesser son escalade et l'ONU se dit très inquiète. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence ce lundi à la demande de la France. Le compte-rendu à New York de notre correspondante Karine Otten.
Le Conseil s'est félicité des bonnes nouvelles annoncées par Donald Trump un peu trop vite cette nuit. Pour autant, les diplomates n'étaient pas dupes. Ils ont rappelé aux deux parties leurs responsabilités. La prise avant-hier dans le sud Liban de la forteresse de Beaufort que l'armée israélienne a occupée jusqu'en 2000 n'est pas vue d'un bon œil à New York, 26 ans plus tard. Moscou a parlé de politique de la terre brûlée. L'ambassadeur français Jérôme Bonafont, lui, d'erreur stratégique d'Israël de répondre aux provocations du Hezbollah.
Israël renoue avec une période que l'on voulait croire révolue. Loin d'apporter la sécurité à Israël et ses habitants, une nouvelle occupation risque de ne faire que nourrir l'instabilité. Car chaque village bombardé est rasé. Chaque civil tué renforce le Hezbollah et fragilise l'exécutif libanais.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a recommandé de maintenir des forces en uniforme au Liban après le départ à la fin de l'année de la mission de maintien de la paix actuelle, la FINUL. Elle pourrait surveiller la ligne bleue de manière impartiale. Le Liban a approuvé l'idée. Cette option a aussi été réclamée par la Chine, qui craint sinon un vide sanitaire. Mais elle pourrait être rejetée par les États-Unis et Israël. Karine Otten, New York RFI.
Et l'escalade militaire israélienne au Liban qui pourrait porter un coup d'arrêt aux négociations déjà difficiles entre les États-Unis et l'Iran.
Alors qu'à Téhéran, l'agence Tasnim a annoncé hier que les négociateurs iraniens suspendaient leur participation aux discussions en raison, je cite, des crimes qu'Israël continue à commettre. Le ministère des Affaires étrangères iranien estime que les États-Unis sont directement responsables d'une violation du cessez-le-feu par le régime israélien contre le Liban. Et les gardiens de la révolution menacent d'ouvrir de nouveaux fronts. C'est peut-être ce qui a motivé Donald Trump à tenter d'obtenir cette cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Il aurait élevé la voix et accusé Benjamin Netanyahou d'être complètement fou lors de leur coup de fil d'hier, selon le média américain Axios, souvent bien informé. Le président américain qui affirme malgré tout que les discussions se poursuivent à un rythme rapide entre les États-Unis et l'Iran. Il espère un accord dans la semaine à venir. La situation au Moyen-Orient à suivre minute par minute dans notre direct sur RFI.fr.
En Colombie, des résultats qui continuent de faire l'effet d'une bombe.
Ceux du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche et la première place raflée par surprise par l'extrême droite et son candidat Abelardo de la Espriella, 2 points devant le sénateur de gauche Ivan Cepeda, pourtant donné favori par les sondages. Le successeur désigné de Gustavo Petro a promis dimanche de vaincre l'extrême droite fasciste. Un débat est prévu entre les deux hommes cette semaine et une partie de la population colombienne sort de ce premier tour déboussolée. Reportage à Medellín de notre correspondante Najed Benrabah.
Au réveil ce lundi, le score de l'extrême droite était sur toutes les lèvres et l'annonce du premier débat entre les deux candidats a fait réfléchir. Juan Camilo Toro est administrateur d'entreprise. Il est décidé à voter pour le dauphin du président, le candidat Ivan Cepeda.
C'est comme si en réalité les gens n'écoutaient pas ou ne savaient pas vraiment qui est de la Espriella. Si à un moment donné je me suis dit qu'aux États-Unis Trump était un choix ridicule, il me semble impensable de faire de même pour mon pays. Donc si je votais pour Espriella en Colombie, ce serait élire un Trump colombien, une personne erratique, trop égocentrique et qui fait ce qu'il veut avec le pays. Et ça va à l'encontre de ce que je suis.
De son côté, Laura Duque se sent désemparée. Cette assistante de production d'une agence cinématographique avoue ne plus savoir pour qui voter.
Ça me rend triste et ça m'effraie. Mais ce qui m'inquiète le plus à ce sujet, c'est la réaction générale de la population colombienne. La haine intense. Donc je veux défendre mon vote blanc et je voudrais à l'avenir une Colombie dans laquelle il n'est plus nécessaire de voter pour le moins pire.
Les deux candidats, Ivan Cepeda et Abelardo de la Espriella, ont 3 semaines pour convaincre les indécis et nouer des alliances. Najed Benrabah, Medellín, RFI.
Dans l'actualité également, l'Ukraine est d'intenses frappes menées par la Russie dans la nuit.
Alors que Volodymyr Zelensky prévient depuis plusieurs jours que Moscou prépare une nouvelle attaque massive, 9 morts ce matin en Ukraine, dont 4 dans la capitale Kiev, touchés par des missiles balistiques, des frappes meurtrières aussi à Dnipro et 10 blessés dont un enfant à Kharkiv dans l'est du pays. Les frappes russes qui s'intensifient, le nombre de missiles tirés le mois dernier est l'un des plus importants depuis le début du conflit. Côté russe, des attaques de drones ukrainiens hier ont tué un civil dans la région de Koursk, proche de la frontière, et provoqué un incendie dans une raffinerie du sud.
Sur le continent africain, Romuald Ouadani poursuit sa tournée.
Le nouveau président béninois était au Nigeria hier. Il est attendu aujourd'hui à Niamey et Ouagadougou, deux capitales avec lesquelles le Bénin entretient des relations glaciales depuis les coups d'État. Les juntes du Niger et du Burkina Faso accusent régulièrement le pays d'héberger des bases françaises destinées à les déstabiliser. Niamey va même plus loin. Elle tient le Bénin pour l'un des artisans de la tentative d'intervention militaire de la CDAO pour rétablir le président renversé Mohamed Bazoum. Romuald Ouadani se rend donc au Niger dans une optique de décrispation et de normalisation. Correspondance à Cotonou de Jean-Luc Aplogan.
Avant ce déplacement, un signal de détente, les trois pays de l'AES étaient présents à l'investiture du 24 mai, une première. Romuald Ouadani devient ainsi le premier président béninois à se rendre à Niamey depuis le renversement de Mohamed Bazoum et l'accession au pouvoir du général Abdourahmane Tiané. Deux anciens chefs d'État béninois avaient bien tenté une médiation. Elle a débouché sur une visite de travail d'une délégation nigérienne en juillet 2024 et depuis, plus rien. La frontière reste fermée côté Niger. Avec le Burkina Faso, les contentieux sont tout aussi vifs. Patrice Talon s'est rendu à Ouagadougou pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré et plaider pour une coopération sécuritaire. S'y ajoute désormais le différend territorial de la zone de Kourou-Kualou, soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Les autorités burkinabées ont récemment protesté contre la présence de forces béninoises dans la zone, selon un courrier adressé aux autorités béninoises fin avril. Le nouveau président béninois entend dissiper ces malentendus. Tout ne se règle pas du jour au lendemain, tempère un diplomate, mais la démarche est pertinente. Des séances de travail seront encore nécessaires. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
L'actualité africaine également au Sénégal après l'annonce hier du nouveau gouvernement. Une semaine après la prise de poste d'Amadou Alaminou Mohamed Lo pour remplacer Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Seul un dixième de cette nouvelle équipe fait partie du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Le ministre des Finances, Cher Diba, reste à son poste. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Vous nous appelez pour en parler avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité à 8h10, temps universel.
En l'absence de blockbusters américains, c'était le film à gros budget présenté cette année au Festival de Cannes.
La bataille de Gaulle du réalisateur Antonin Baudry, connu notamment pour Le Chant du Loup, un diptyque dont le premier volet sortira demain dans les salles françaises. Et qui, comme de nombreux autres films sélectionnés au festival cette année, revient sur la période de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément sur le défi fou de Charles de Gaulle entre 1940 et 1944, celui d'unifier la résistance et de lutter contre l'ennemi.
For love, and you got lost on me. Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent.
Principe Actif. Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Ok. Avipi Kwani. Eh, moi,